Bonjour, Raymond Brichard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Monory pour l'émission Bienvenue en Europe. Et on l'a fait ce 9 mai, c'est-à-dire le jour de la fête de l'Europe. Quand même, c'est une bonne coïncidence pour notre émission.
Oui, bonjour chers auditeurs, bonjour tout le monde. Effectivement, la journée de l'Europe, les médias, en tout cas français, personnellement, je constate qu'ils en parlent assez peu.
Mais nous en parlons, donc ça c'est bien.
Mais nous en parlons, donc nous essayons de compenser. C'est quand même une date extrêmement importante, et particulièrement par les temps qui courent, où l'Europe est à nouveau en guerre, en tout cas aux frontières de l'Union européenne, avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Et ceci nous renvoie à l'origine même de la construction européenne. Il faut se rappeler que précisément pourquoi le 9 mai est la fête de l'Europe depuis 1986, c'est une date qui a été choisie exprès, ce 9 mai. Pourquoi ce 9 mai? Parce que justement, le 9 mai 1950, Robert Schuman, qui était ministre des Affaires étrangères du gouvernement français de l'époque, a fait un discours qui a présenté un projet de créer une union tout à fait insolite, nouvelle, improbable, entre la France et l'Allemagne. Et a été proposé aux autres pays de l'Europe. Et ça a créé une union entre 6 pays. Donc la France, l'Allemagne, bien sûr, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie.
Alors on peut se rappeler d'ailleurs qu'ils se faisaient vraiment confiance puisqu'ils ont mis en commun ce qui était le fer de lance de l'activité économique, c'est-à-dire le charbon et l'acier.
Et surtout sur le plan de militaire, parce qu'à l'époque, l'acier et le charbon étaient effectivement, comme vous voulez de le souligner, les éléments indispensables pour pouvoir mener des guerres. Et donc, l'idée, c'était au départ une idée de Jean Monnet, un autre Français, qui était commissaire au plan au lendemain de la libération en France. Et donc, il fallait reconstruire. Comment reconstruire à terme et éviter une guerre dans le futur? Alors, il faut dire que aussi le contexte historique à l'époque, c'était donc 5 ans après le dernier conflit, il y avait
une mémoire vive du
conflit. Une mémoire d'abord vive, mais aussi des tensions extrêmes qui remontaient entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union soviétique et en particulier tous les pays occidentaux. Et donc la partie de l'Allemagne, puisqu'elle avait été coupée en deux,
de l'Est,
il y a eu cette volonté de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Jean Monnet avait eu cette idée de dire, si on refait comme on avait fait après le premier conflit mondial, après la guerre de 14-18, le traité de Versailles, le pays qui devient punitif, à savoir l'Allemagne, ça va l'inciter encore à refaire un regain de nationalisme. Et à ce moment-là, il faut absolument trouver une autre solution. Et sa solution a été de proposer à Robert Schuman de dire, écoutez, moi j'ai une idée, on peut mettre en commun la gestion de la production de l'acier et du charbon au niveau européen, et en tout cas entre la France et l'Allemagne. Et ainsi, il y aura une autorité spéciale, supranationale, qui va gérer ce tout et qui sera indépendante et qui marchera exprès pour qu'on ne puisse plus renationaliser cette dimension-là. Et c'est ce qui a été à la base de ce projet, que ça s'est appelé le traité donc sur le charbon et l'acier, la CECA, Communauté européenne du charbon et l'acier. C'est une innovation incroyable qui n'a, dans toute l'histoire de l'Europe et du monde, on n'a jamais vu quelque chose à ce niveau-là.
Alors c'est vrai qu'il faudrait continuer dans cette perspective-là, c'est-à-dire ne pas punir trop Poutine.
Donc on peut se poser des questions sur à chaque fois l'avenir. Comment est-ce qu'on doit, une fois qu'on est dans des négociations, comment est-ce qu'après on s'y prend? Mais en tout cas, rappelons ici, jour de la fête de l'Europe, c'est cette, ce projet de traité qui a été ratifié l'année suivante en 1951 et qui est le premier traité qui a créé ce qui est devenu plus tard l'Union européenne. Après, il y a eu toute une série d'autres traités. D'abord, le traité en 57 de la Communauté économique européenne. Et aussi,
et peu à peu, on a intégré
peu à peu. Il y a eu après le saut, il y a eu, et on est actuellement avec l'Union européenne, qui est évidemment bien plus avancée au niveau du premier traité. Mais comme l'avait indiqué Robert Schuman et Jean Monnet, l'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par étapes et par une solidarité de fait. Donc ce qu'il fallait trouver, c'était au fur et à mesure que l'Europe s'est construite, c'est qu'est-ce que l'on peut mettre en commun et qu'est-ce qui peut faire que, justement, on développe une solidarité entre les États membres. Et précisément, quand on regarde le contexte actuel de ce qui se passe à nos frontières, en Ukraine, eh bien, l'Europe qui
commence à mettre, en commun sa politique extérieure,
qui tout d'un coup se dit, mais vraiment, on a intérêt à être unis, à être solidaires. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu toute une série d'actions qui ont été entreprises au niveau européen ces derniers temps, qui étaient inimaginables il n'y a pas si longtemps. Donc, on en est là grâce à cette fameuse idée de Jean Monnet qui a été appliquée et reprise par Robert Schuman, et il ne faut jamais oublier. En plus, c'est un symbole parce que il y a non seulement cette journée de l'Europe, on rappelle les origines, mais il faut savoir que c'est quand même, quand on a le drapeau européen, qu'on a la monnaie l'euro. Unique, l'euro, quand on a le passeport.
Oui.
Quand on a les quatre fameuses libertés de circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux, qu'il y a les droits fondamentaux qui rappellent exactement quels sont les droits et l'état de droit, la santé, quand on voit avec ces problèmes de la pandémie, comment l'Europe finalement s'est mise en commun pour essayer de gérer tout ceci, eh bien, tout cela démarre le 9 mai 1950.
Alors,
et
on
donc,
peut
c'est
dire
perspective
que.
Perspective ensuite.
C'est bien la fête. C'est bien de fêter l'Europe et de fêter ce chemin parcouru que vous venez d'évoquer.
Et ensuite, évidemment, l'Europe, comme l'avaient rappelé Robert Schuman et Jean Monnet, elle ne se fera pas d'un coup, par étapes. L'Europe n'est pas finie. Donc, on est encore dans cette perspective. On va pouvoir y venir dans nos propos d'aujourd'hui, parce que précisément aujourd'hui, fête de l'Europe, c'est aussi une occasion de faire le point de ce que l'on a appelé la conférence sur l'avenir de l'Europe.
Et oui, il y a presque 50 mesures qui ont été...
49 exactement, qui ont été retenues. Donc on en avait déjà parlé sur cette antenne. C'est une initiative de consultation citoyenne à l'échelle européenne. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ça a été lancé le 9 mai de l'année dernière, 2021, donc il y a exactement un an. Il y a eu cette possibilité pour tous les citoyens de l'Union européenne de dire comment est-ce qu'ils voyaient notre avenir, quelles mesures ils proposaient, est-ce qu'il faudrait modifier telle ou telle chose. Il y a évidemment, comme toujours, mais il y a aussi dans le fonctionnement même de notre Europe, il y a des choses qu'on devrait modifier ou qui on trouve qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc tout cela a été ouvert et ceci a été réuni. Il y a eu des assemblées de citoyens qui avaient été tirés au sort, en plus de tous les volontaires qui pouvaient aller inscrire leurs propositions
sur
la plateforme Internet. Et il y a eu un résultat avec 305 mesures qui ont été retenues comme susceptibles de faire partie des projets de transformation de l'Union européenne. Sur ces 309, il y a eu des réunions à haut niveau qui étaient déjà prévues en ce qui concerne la structure même de ces discussions. Il y a une conférence spéciale qui s'est tenue réunions. Ceci a abouti à une sélection de 49 mesures qui sont réparties entre 9 types de thèmes. Ce qui est intéressant de souligner, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va pouvoir voir qu'est-ce que cela va donner, parce que ces 49 propositions soumises par les citoyens de
l'Union européenne... Peut-être que nos hommes politiques ne les ratifieront pas.
Alors c'est là où justement donc on se tourne vers l'avenir. Et aujourd'hui, le 9 mai, il y a précisément à Strasbourg, où notre président de la République française va venir au moment où nous enregistrons cette émission, va présenter, officialiser les résultats de cette conférence aux côtés de Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et aux côtés de devant le Parlement européen. Tout cela va être officialisé. Et alors maintenant, évidemment, on va se tourner vers la suite. Mais donc, c'est quand même intéressant de souligner que au-delà de ce symbole, donc la fête de l'Europe le 9 mai, mais il y a non seulement ce rappel à l'histoire, d'abord pour dire le 9 mai, l'Europe, son objectif premier, c'était de consolider la paix. En deuxième temps, c'était d'essayer de développer l'intérêt commun à travers l'économie, etc., aller jusqu'à, comme l'espérait aussi Jean Monnet au départ, les États-Unis d'Europe. On verra si un jour ceci arrive, avec les débats qui sont autour du fédéralisme, etc., ou pas fédéralisme. D'ailleurs, je rappelle que Jacques Delors, lui, avait proposé une solution
intermédiaire peut-être pratique.
Et assez pratique en disant on devrait créer une fédération d'États-nations, c'est-à-dire dans le respect des États qui font partie de l'Union européenne, mais qui participeraient au niveau supranational à un genre de gestion qui est de type fédéral, bien entendu. Parce que dans l'esprit français, d'ailleurs, quand on parle de fédéralisme, et parce que là on se replace dans le futur de l'Europe, si on allait dans telle ou telle direction, tout ce qui apparaît comme fédéral est mal vu en France, qui est un
pays assez centraliste. Oui, parce qu'on craint que ce soit inégal.
Et qu'on soit inégal,
pratiquer le consensus.
En tout cas, il y a des débats, donc ces débats vont maintenant pouvoir se développer. On va voir comment cela va tourner, mais d'ores et déjà, le Parlement européen met la pression sur les gouvernements, en disant « nous, on veut aller de l'avant ». Et il y a eu un vote qui est intervenu début mai à ce sujet, en disant « nous reprenons tout ce qui est là-dedans et on va faire un maximum pour que ça passe ».
C'est ça qui est intéressant, c'est que le Parlement, est vraiment, on sent qu'il a vraiment une vision très européenne. Et quelquefois, ce sont les différents hommes politiques des différents lieux qui, finalement, perdraient un peu de pouvoir. Oui. C'est difficile de perdre du pouvoir.
Et dans toutes les mesures, et notamment qui sont prévues, le Parlement européen, évidemment, pousse à ce que, parmi les propositions, celles qui concernent précisément le Parlement européen et ses attributions, ses prérogatives, évidemment, il pousse parce qu'il veut que le Parlement européen ait un droit d'initiative égal à celui de la Commission européenne.
Ça me paraît très intéressant.
Qu'il ait le pouvoir de voter le budget, ce qu'il fait actuellement, mais de proposer, de faire des propositions à cet égard, et pas uniquement dire oui ou non. Parce que rappelons que le Parlement européen a le dernier mot pour donner son feu vert ou non au projet du budget européen.
C'est d'ailleurs lui qui a permis l'élargissement vers le vert.
S'il n'est pas d'accord, il n'y a pas de budget. Mais en revanche, il ne peut pas faire des propositions comme peuvent le faire des parlements nationaux, par exemple. Par ailleurs, il pousse à ce qu'il y ait le président ou la présidente de la Commission européenne qui soit proposé par le Parlement et non pas par le Conseil européen. Donc il y a toute une série de mesures au plan institutionnel qui devraient être modifiées. Et également, notamment lorsqu'on dit le droit d'initiative, qui est à l'heure actuelle la tribu de la Commission européenne. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a le droit d'initiative populaire, mais dans la pratique quotidienne, c'est la Commission européenne qui est l'organe exécutif des institutions, qui donc gère comme un gouvernement, si l'on veut, national, mais au plan européen. Mais ce gouvernement, entre guillemets, cette Commission européenne, qui est un organe exécutif, comme on vient de le rappeler, elle est la seule, parce que dans les traités, elle représente l'intérêt général, et c'est son devoir de défendre l'intérêt général de tous les États, c'est elle qui a le seul pouvoir de proposer des mesures, proposer de la législation. Ensuite, le Parlement européen et les États, à travers le Conseil des ministres, le Conseil de l'Union, disent oui ou non. Oui, ils amendent les textes ou pas. Mais le Parlement européen, après, en dernier ressort. Mais il n'a pas ce droit de proposer des législations comme le font les parlements européens, comme le font les parlements nationaux. Donc il y a toute une série de mesures parmi ces 49 qui vont dans ce sens, et on verra si, à l'issue précisément, parce qu'il y a encore la présidence française qui n'est pas encore achevée, donc il y aura, aujourd'hui même où nous enregistrons cette émission,
Un
mois et demi pour agir, et avec, sous présidence française, peut-être une indication sur l'orientation de ce qui pourra être enclenché à la suite de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc c'est quand même, encore une fois, un jour symbolique, et l'Europe, c'est la paix. Rappelons ce que le 9 mai, précisément, aussi Robert Schuman avait dit, nous n'avons pas fait l'Europe, hein, c'était entre les deux guerres, Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des propositions d'avancer sur une union de l'Europe, sur notre continent, ça n'avait pas été retenu, en particulier un Français qui s'appelait Aristide Briand, puis ensuite à travers la SDN, etc., on ne va pas refaire l'histoire ici, mais donc il a dit, nous n'avons pas fait l'Europe et nous avons eu la guerre. Et c'est justement en proposant le 9 mai une autre approche sur le continent européen, d'une entente entre les pays qui autrefois étaient belligérants, que c'est un côté unique dans l'histoire du monde, de proposer une autre approche. Et ça s'appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et donc le 9 mai, c'est une fête.
Alors c'est vrai que cette approche de l'Union européenne pour faire la paix, c'est vrai aussi qu'elle est très tiraillée, parce que vous avez quand même un certain nombre de pays d'Europe qui comptent beaucoup sur le parapluie américain, donc sur l'OTAN. Et l'OTAN, c'est quand même un traité de guerre, ou d'armement, ou de défense.
Il y a de toute façon beaucoup de choses qui sont actuellement d'abord en discussion au niveau européen. Il y a d'abord au sein même de l'Union européenne, parmi les 27 membres actuels, il y en a quelques-uns qui, parce qu'ils ont des intérêts nationaux, évidemment, notamment au niveau de la provision énergétique, on pense en particulier à la Hongrie, qui est complètement tributaire du gaz russe, la Pologne pour d'autres raisons, etc., sur le plan international, la Russie, on ne va pas refaire ici tout ce que nos auditeurs connaissent en écoutant les informations quotidiennes sur ce qui se passe du côté de la Russie et de l'Ukraine, dans ce contexte-là. Donc il y a beaucoup de choses qui tiraillent au sein de l'Union européenne, du fait des sanctions qui ont été prises à l'égard de la Russie, des conséquences sur le plan économique, notamment énergétique. Et puis, il y a également parallèlement des questions sur le fonctionnement et la manière dont les valeurs même de l'Union européenne sont remises en cause par certains courants politiques dans certains États. On pense en particulier à la Pologne et à la Hongrie, là aussi, sur l'état de droit qui est remis en cause. Donc là, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a quand même, dans cette crise actuelle qui est véritablement très très forte, et on ne sait pas qu'est-ce que nous réserve l'avenir à ce sujet, mais jusqu'à présent, il y a eu quand même, au-delà de toutes ces divergences internes, ce qui paraît à la limite presque normal quand il y a 27 pays autour d'une table et qu'il faut prendre des mesures ensemble, il y a évidemment parfois des points de vue différents. Bien, face à ce qui se passe à nos frontières, il y a eu, il faut quand même le souligner, un rebond de solidarité absolument incroyable qu'il faut quand même souligner.
Mais je crois aussi que dans la vie concrète, puisque du coup, on a des Ukrainiens qui viennent en Eure-et-Loire, j'ai rencontré des Ukrainiens qui m'ont carrément dit « Ah mais voilà, pour l'école, de toute façon, nous, on... » Bon, ils parlaient du système scolaire ukrainien en disant « Eh bien, quand on peut, on va faire des études en Pologne parce que, vous savez, les diplômes polonais sont reconnus dans toute l'Europe. » Donc là, je crois que même en étant à l'extérieur de l'Europe, les gens ont bien conscience de ce qui est intéressant. Et ça, c'est aussi...
Oui.
Quand on songe, par exemple, je sais pas, je me rappelle les débats filandreux pour la reconnaissance réciproque des diplômes, où finalement chacun disait, bah, dans les études de médecine, par exemple, il y a ceci, ceci, cela. Alors celui-ci, alors si on additionnait tout ce que les gens voulaient mettre, il faudrait non pas 7 ans d'études, mais 15 ans, et c'était pas possible. Donc on a dit, finalement, arrêtons là. Est-ce que les gens meurent davantage en Angleterre ou en, je sais pas quoi, en Italie qu'en France ou en Espagne? Et finalement... reconnaissons réciproquement les diplômes. Donc, c'était se faire confiance. Et je crois que ça, on va peu à peu dans cette confiance réciproque.
Tout à fait.
Ça me paraît important de faire avancer l'esprit européen.
La coopération, la concordance, et puis bon, également avec Erasmus, etc. Et s'agissant de la Pologne, d'ailleurs, j'en profite pour souligner que sur le plan européen, il y a un institut qui est l'un des plus prestigieux instituts européens, qui s'appelle le Collège d'Europe, qui a été créé précisément au lendemain de la dernière guerre mondiale, qui s'appelle le Collège d'Europe, qui est en Belgique, à Bruges.
Et
cet institut a, au moment des négociations de l'élargissement aux pays de l'Est, eh bien, il a créé, c'est sa seule...
la seule succursale.
Succursale, je cherchais le mot, merci, en Pologne.
Oui, c'est intéressant ça.
Donc, c'est quand même intéressant à souligner. Donc, voilà, même sur ce plan-là, d'ailleurs, il faut bien se rendre compte qu'au niveau des populations,
pour l'instant, il c'est y quand y a même notamment les pays de l'Est et du Sud qui font le plus gros poids d'accueil de migrants.
Tout à fait.
Alors, c'est vrai qu'il y aura peut-être à voir comment, dans l'avenir, sont transposées les directives européennes, comment on applique les décisions européennes, quelle liberté choisir. Mais on peut rappeler d'ailleurs à cet égard que c'est la devise, c'est l'union dans la diversité quand même.
Tout à fait, ça fait partie de ces symboles, enfin plus que des symboles, parce que vraiment avec l'hymne européen aussi, le drapeau évidemment aux 12 étoiles, on a déjà évoqué cela. Mais c'est une approche globale et il faut... Ce qui est véritablement, précisément ce jour du 9 mai, ce qui rend un peu triste, bon, nous sommes évidemment, si on fait cette émission, c'est qu'on est convaincu que
de
l'utilité
de
l'Europe, de cette pacification et de tout ce qui a été fait au niveau des traités différents européens, c'est qu'il y ait malgré tout, dans chacun de nos pays, une partie des populations, et au niveau même des médias qui en parlent très peu, de ces avantages que l'on a tous à être autour de la même table, à 27 actuellement. Et ces avantages sont inimaginables par rapport à ce que serait un retour au nationalisme pur et dur. Et on le voit de temps en temps avec des élections. En France, on a pu le voir. Donc, ici, il ne s'agit pas de prendre position pour tel ou tel parti politique. Mais on remarque que récemment encore, dans plusieurs de nos pays, il y a un rebond un peu, pas dire que de la même manière que ce qui se passe du côté russe, mais c'est justement ce danger du retour sur soi et de ce danger d'un retour à un patriotisme qui est mal...
un patriotisme un peu étriqué,
étriqué, dirons-nous. Et qui est un repli sur la nation en rappelant certaines gloires du passé. Et là, je trouve que cela est vraiment tellement dommage qu'on n'arrive pas à convaincre tout le monde que non, l'Europe... C'est justement, comme l'avait dit Robert Schuman, la paix. Et en plus, à travers la construction européenne, et là les chiffres sont là, il y a eu des avantages considérables sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la richesse de notre continent, etc. Alors il y a évidemment toujours des choses qui ne marchent pas. Nous sommes quand même, on l'oublie de le dire, jusqu'à ces derniers temps, on était la première puissance économique commerciale du monde. Devant les États-Unis.
Oui, mais c'est vrai.
Donc il y a toute une série de choses. Il y a une liberté démocratique. Il y a des valeurs auxquelles très peu de pays dans le monde ont accès. Quand on voit ce qui se passe dans beaucoup de pays soi-disant illibéraux ou carrément des
dictatures,
des autocraties, on a des avantages ici dont on ne se rend même plus compte. Et c'est pourquoi, lorsqu'on entend des propos qui voudraient nous dire « Ah oui, mais la gloire du passé, tout ça, on ne va pas être mangé dans un univers qu'on ne maîtrise pas », etc. Si, on partage tout. Et effectivement, d'ailleurs, dans les mesures qui sont proposées parmi les 49 propositions de la Conférence de l'Europe, aussi de mettre beaucoup plus l'accent sur la transparence pour que chacun comprenne ce qui est fait. Et par exemple, ce qui est décidé au niveau du Conseil des ministres, eh bien, qu'il y ait une possibilité d'avoir une chaîne télévisuelle, radio, etc., qui dise que voilà comment ça se passe. Parce qu'actuellement, le Parlement européen, tout le monde peut aller assister à ce qui s'y passe, mais le Conseil des ministres, lui, s'est fermé. On rentre dedans, et puis... le public n'y a pas accès, il y a ensuite des comptes rendus. Mais donc, il y a une volonté également au niveau du futur de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à modifier dans un sens positif, et cette mesure en fait partie pour que justement montrer aux populations qu'on fait l'Europe pour le bien de tous, mais dans la transparence, avec la possibilité aux citoyens de participer aux décisions.
Oui, mais alors ce que les citoyens ressentent, c'est effectivement les écarts économiques. Et puis c'est vrai que les salaires sont quelquefois, dans certains pays d'Europe, très bas. Et lorsqu'il y a des mesures sociales qui sont prises, c'est vrai aussi qu'il y a des pays qui freinent des cas de fer parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir ce coût salarial. Ou bien, si j'ose dire, les vacances à la française, les salaires à la suédoise, mais en même temps, enfin, je veux dire, voilà.
Beaucoup de choses à faire.
Mais sur le plan déjà social,
sur le plan social pour les personnes, on va vérifier ce qui va se passer à la fin de la présidence française, mais il y a dans les projets quelque chose sur ce plan-là. Donc, qu'il y a à travers une coordination des situations, notamment des travailleurs, pour que ce soit harmonisé et qu'il y ait les droits des salariés, quel que soit le pays, pour que ces droits soient identiques, en tout cas harmonisés. Alors on ne peut pas harmoniser les salaires, puisqu'il y a des différences d'un pays à l'autre. Ça, on pourra toujours, même si les écarts se réduisent avec le temps, mais en tout cas, il y a des choses qui doivent être faites. Et c'est là, on se tourne vers l'avenir parce que, précisément, il faut construire pour le bien de tous, rappelons-le.
C'est très intéressant tout ça, mais de fait, en ce moment, il y a les Ukrainiens et j'entendais des Ukrainiens que j'ai interrogés, que j'ai interviewés, qui disaient « Mais vous vous rendez compte, on peut passer la frontière ?» Et lorsque moi, je passais la frontière avec ma famille, elle parlait du passé, c'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, elle expliquait le marathon que c'était de passer une frontière. Donc, je crois qu'on peut dire, oui, vive l'Europe qui permet aux uns et aux autres de circuler et de mieux vivre. Alors, bon anniversaire l'Europe et aux auditeurs. Je dis bonne semaine à tous. Au revoir.